Culture d'Haïti et d'ailleurs, croisons nos regards dans Causer Kilti, le rendez-vous des cultures en Haïti, tous les dimanches après-midi à 1h33 et 8h33 sur RFI.
Chers amis du bonheur, chères auditrices, chers auditeurs de Causer Kilti, un peu partout à travers le monde et particulièrement en Haïti, Causer Kilti est en mission à Paris. Là, nous dans le 6e arrondissement, nous l'accueillons un professeur du Collège de France. Déjà, elle rigole un peu. On a autour de nous, là, sur une table, nous avons deux tasses de tisane, nous avons un petit fruit, nous sommes dans la bonne humeur, dans la bonne ambiance. Yannick Layens, le beau temps, voilà, 16 degrés. Avec du soleil. Yannick Layens est en face de moi. Urgence d'écrire, rêve d'habiter. Bonjour Yannick Layens.
Bonjour D'Angelo.
Déjà merci pour ce petit thé revigorant comme tu m'as dit.
Tout à fait.
Alors ça, surtout de la vigueur, il t'en faut. À toi, après cette performance mais des plus physiques que tu as donnée au Collège de France le 21 mars dernier.
Oui. Et tu imagines l'émotion qui a précédé, le trac. Et puis, de toute façon, il fallait se jeter à l'eau. J'avais bien accepté de le faire. Et puis, je me suis lancée. Ça a été une heure debout pour faire attendre la présentation de l'administrateur, parce qu'il y a tout un protocole. La présentation de Antoine Compagnon, qui est dans la section littérature de l'école de France, du Collège de France, pardon. Et puis voilà. Et je me suis lancée à l'eau.
Cher monde francophone, tu es donc la première à tenir cette chaire. Une femme au Collège de France, c'est déjà quelque chose, une femme noire.
Oui, parce qu'on ne compte pas beaucoup de femmes d'abord au Collège de France et je pense pas qu'il y ait de Alain Mamoko avait été invité il y a 2 ans pour un cours sur la littérature africaine. Et voilà, moi je suis venue pour cette chaire des mondes francophones, qui est une chaire qui va se tenir sur 3 années. Voilà.
Alors pour que les gens se rendent compte de l'ampleur de la chose, le Collège de France c'est quand même le haut lieu du savoir ici en France, Yannick Layens.
Le temple du savoir, et c'est le lieu qui donne le là, comme on pourrait dire. C'est-à-dire que c'est là où les chercheurs en sciences exactes, parce qu'ils ont des prix Nobel en physique, en astrophysique, enfin, en philosophie, c'est là où que Foucault a enseigné. Roland Barthes a enseigné aussi là-bas, des scientifiques comme Claude Bernard, enfin bref, toute une liste de noms. Et ces gens, en général, viennent au Collège de France essayer leurs nouvelles théories, se faire la main, pousser plus loin leurs réflexions, puisque c'est pas un lieu d'enseignement, c'est un lieu de réflexion. Le public qui vient là, c'est très démocratique, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'avoir, je sais pas moi, un diplôme pour y entrer.
Et puis les cours sont gratuits.
Absolument, il suffit d'entrer et de s'intéresser au sujet. Donc c'est une tradition depuis le 16e siècle. Donc, et le Collège de France donne le ton. Et je pense que ils ont beaucoup réfléchi avant de faire d'instituer cette chaire. Parce que la France accuse un retard dans les études postcoloniales.
Ouais, c'est vrai que Antoine Compagnon t'a signalé ça, l'élite a introduit où que par rapport à de l'université américaine, la France est très en retard sur ces savoirs-là.
Absolument, et ils s'en sont rendus compte. Malgré la protestation d'un certain nombre d'écrivains qui trouvent que bon, comme quoi le postcolonial c'est une sorte d'invasion. Le savoir français. Donc tu t'imagines, on en est là, et je pense qu'ils ont été courageux et de franchir le cap, parce qu'ils se rendent compte que bon, la France peut être complètement dépassée et par les travaux qui se font dans les universités anglo-saxonnes, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre, en Afrique du Sud, où les gens commencent à réfléchir justement à ces savoirs des pays autres que les pays de l'Empire. Quand on parle de l'Empire, ce sont les grandes métropoles qui ont construit le monde moderne en effaçant pratiquement ou en occultant ou en les savoirs, les cultures, l'histoire de ces mondes qu'ils avaient colonisés. Voilà.
Et pour que les gens comprennent également le fonctionnement de ce Collège de France et comment Yannick Layens va inscrire son enseignement dans ce cadre-là, après la leçon inaugurale, tu es appelé à tenir combien de cours?
Je dois donc dispenser 8 cours. Et évidemment, la structure même de la leçon t'oblige à d'abord justifier, puisque c'est la première fois qu'il y a une chaire, donc justifier l'existence de la chaire. Deuxièmement, il faut donner son parcours. d'où est-ce qu'on vient pour en être là, et ensuite ce qu'on, le contenu de ce qu'on va dispenser. Donc c'est vraiment une construction en trois temps. Donc ce dont je vais parler, j'en ai un petit peu fait les grandes lignes, mentionné les grandes lignes dans la leçon, c'est le 19e siècle qui est la grande inconnue comme je l'appelle. Ensuite le corps noir dans la littérature haïtienne, c'est extrêmement important je pense. Ensuite les trois décennies d'exception 1930-1960. Littérature de la diaspora, partir ou revenir, qui est un grand thème de la littérature haïtienne, qui traverse les œuvres et qui, il y a aussi le voyage de ceux qui écrivent, pour maintes raisons. L'écriture des femmes, l'écriture de la diaspora, un cours sur la littérature en langue créole. Là, on va parler du créole au Collège de France. Et puis, je vais faire un cours sur Haïti dans l'imaginaire des autres. Depuis Victor Hugo avec Burk Jargal, en passant par Madison Smart Bell, en passant par Russell Banks, en passant par Von Kleist, à Isabelle Allende, enfin, on peut citer jusqu'à Laurent Godet.
Donc, ce qui fait que Haïti sera au centre de ton enseignement. Haïti, son histoire et sa littérature.
Tout à fait. Et là, comme je situais beaucoup plus dans la littérature, dans l'histoire, et presque dans l'anthropologie aussi un petit peu, pour que les gens comprennent d'où est partie cette littérature, enfin, sur quel terroir. Là, maintenant, je vais aller beaucoup plus dans les textes littéraires. Avec les cours. Et puis, il y aura un colloque le 20 juin. Et pour ce colloque, je vais inviter un certain nombre de chercheurs. Et là, je vais essayer de respecter quand même, non seulement faire venir des gens d'Haïti, pour qu'on sache qu'il y a quand même des gens qui travaillent en Haïti. Je vais chercher des chercheurs qui seront d'Amérique du Nord. Il y en a qui habitent aussi ici. Et je vais essayer, et je veux, qu'il y ait des jeunes. Au moins deux ou trois jeunes, pour qu'on montre que la relève est là.
Et cette leçon inaugurale, Yannick Layen, c'est quand même une heure de parole, c'est 60 000 signes, et c'est toute une géographie de référence et pour garder un fil rouge.
Ah non, ça a été un travail, je peux te dire, depuis que j'ai accepté et j'ai commencé à travailler. Je pense que j'ai pensé à cette leçon toute la nuit.
Ouais, ça a dû t'occuper.
Ouh là là, vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de travail parce que, en fait, elle va être publiée. Donc, c'est vraiment ta carte d'identité, ta carte de référence et c'est, moi, je ne sais pas, ton ADN. Intellectuel et sensible aussi parce que moi, je ne dissocie pas les deux. Donc, là, il faut travailler.
Urgence d'écrire, rêve d'habiter, avec S dans urgence entre parenthèses, avec S à rêve entre parenthèses. Pourquoi ce besoin du S, Yannick Layens?
Parce que je pense que, en dehors de l'urgence fondamentale qui est née avec notre histoire de peuple, qui a commencé, bon, je pourrais même dire avant notre indépendance, puis c'est l'urgence qui a peut-être donné aussi l'indépendance, l'urgence a pris plusieurs formes. L'urgence de 1804, c'était pas l'urgence d'aujourd'hui. Mais nous sommes encore dans l'urgence. Les rapports nord-sud ont fait que nous sommes encore dans l'urgence. Et notre propre décolonisation intérieure qui n'est pas du tout terminée fait que nous sommes encore dans l'urgence. Donc oui. Et toujours par rapport à ces différentes formes des modulations de l'urgence, les écrivains, les artistes, parce qu'il ne faut pas seulement dire les écrivains, ont toujours essayé de faire cette espèce de rempart, tout ce qui résiste au champ. Tout ce qui résiste à la beauté, eh ben, on est là pour justement faire que ça existe, malgré tout.
Et en parlant de colonisation interne, dans ta leçon inaugurale, moi-même, des lames, je t'aime bien installé, m'attendais, et tu as beaucoup parlé de cette tension entre Bossal, Créole, Mona de Yo, Mona la ville. Malheureusement, ça persiste dans l'imagerie sociale haïtienne.
Ah ben absolument. Donc, si on veut parler de décolonisation intérieure, c'est d'arriver à faire un nous national. Et tant qu'on n'a pas ce nous national, ben on aura beaucoup de problèmes. Mais c'est une structure mentale que nous avons héritée de la colonie. Donc on continue à croire qu'il y a des gens qui ne sont pas des gens.
Il y a des gens dehors et puis des gens la ville.
Et puis même si on est dans la ville, mais la personne a droit à un certain nombre de choses. On est mon lié, il a droit à la considération. Qu'elle doit joindre soin à l'hôpital. Qu'elle doit joindre l'école, vous petite clé, donc c'est ça.
Ouais. Alors là où cette leçon a marqué les esprits, c'est quand tu as positionné Haïti comme un État ostracisé après son indépendance. Haïti n'aurait pas dû.
Absolument. Et non seulement n'aurait pas dû, et elle a payé pour. C'est-à-dire que l'ostracisme est exercé contre Haïti. Et c'est là où j'ai dit qu'Haïti est un moule dans lequel seront coulées les relations Nord-Sud. C'est-à-dire, on parle d'embargo, mais Haïti a connu le premier embargo des temps modernes. On parle de dette des pays du Sud, mais Haïti, c'est le premier pays qui a connu une dette. Et Haïti est là pour montrer que ce sont des engrenages dont on ne se sort jamais, tant que les relations resteront ce qu'elles sont. Voilà.
Et du coup, cette chaire monde francophone, ça tu l'as dit aussi dans ta leçon inaugurale, ça va permettre à la France de revoir ses relations avec ses anciennes colonies.
Non seulement ses anciennes colonies, les pays du Sud aujourd'hui, et la diversité de sa population aujourd'hui. J'ai dit ça aussi. Parce que ce sont les mêmes critères que l'on tente d'imposer, ou les mêmes critères par lesquels on voit la population venue d'ailleurs, mais elle est française. Voilà.
La littérature haïtienne se fait dans d'autres langues que le français, dans d'autres langues que le créole, l'anglais et l'espagnol, et Micheline Dussek qui écrit en espagnol par exemple. Donc, cette littérature francophone haïtienne, elle n'est plus que francophone, au fait.
Tout à fait. Et c'est peut-être Haïti qui est en train de montrer que, bon, le français doit cohabiter avec d'autres langues. Je suppose pas seulement en Haïti. Dans d'autres pays où il y a des langues nationales, elle sera bien obligée de cohabiter avec. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que quand on parle, par exemple, les gens ne voient pas les implications. Quand on parle de double nationalité, par exemple, pour un Américain, haïtiano-américain, d'avoir la possibilité d'être haïtien, c'est aussi la possibilité de dire, ben, si j'écris, c'est la littérature haïtienne. Donc, les combats ne sont pas isolés. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand Edwige Dantika n'écrit que sur Haïti, on doit cesser de raisonner avec les critères du 19e siècle en ce qui a trait à la nationalité. Parce que les migrations, ont fait bousculer beaucoup de choses.
Tu as aussi saisi, ça c'était un grand jeu d'esprit. On a vu toute l'histoire des lettres haïtiennes passer dans cette leçon inaugurale. Antoine Dupré, si quelque chose, si on arrive. Donc, du coup, dans ton enseignement, il y aura ces premiers auteurs haïtiens.
Il y aura, c'est tout le 19e siècle que je vais présenter parce que, en fait, si on se remet à l'époque du 19e siècle, imagine 1804, il n'y a presque pas d'école. Il y a quelques personnes qui savent lire et écrire. Et un État se crée sur ça. Il y a quelques intellectuels. Et ces intellectuels sont presque obligés d'écrire en français. Parce que même si on veut faire le nous national, mais il faut s'imposer à l'extérieur pour dire qu'on existe. Ce que font toutes les nations, que ce soit la nation allemande, que ce soit d'autres, il y a toujours cette volonté de s'imposer à l'extérieur. Mais en plus de ça, il faut dire que nous sommes noirs, donc nous sommes des hommes. Donc il y a une double mission de l'intellectuel à ce moment-là. Avec très peu de gens. Quand tu lis, par exemple, le livre de Delyne Joseph, qui est l'État haïtien et ses intellectuels, tu te rends compte que ce qui se passe au 19e siècle, c'est de l'ordre de l'impossible aussi. Malgré tout, tu as des revues, tu as des écoles qui naissent, tu as des velléités d'avoir même des écoles supérieures. Enfin, tout ça, dans l'isolement au 19e siècle.
Et dans ce contexte-là, tu as posé également les nouveautés que l'indépendance d'Haïti a apportées sur la scène internationale, Yannick Lyons.
Tout à fait. Quand on pense qu'aujourd'hui, les gens ont d'énormes difficultés à intégrer ceux qui arrivent d'ailleurs, parce que eux ont rendu leur lieu de naissance inhabitable, alors qu'Haïti n'a eu aucun problème à intégrer les Polonais et les Allemands, qui n'avaient rien à voir avec eux, ni leur langue, etc., simplement parce que ces gens s'étaient solidarisés avec l'armée indigène. Donc, finalement, on est beaucoup plus avancé dans l'universel, notre universel à nous, que l'universel des Lumières.
Ouais. Voilà. Parce que quand la France a proclamé la liberté universelle, elle avait toujours des colonies. Les États-Unis ont maintenu l'esclavage pendant longtemps encore sur leur sol.
Mais bien qu'il y avait des avancées pour la liberté individuelle, la France était pour les droits de l'homme. Et d'ailleurs, la femme n'était même pas encore inclue là-dedans. Mais Haïti va très loin. Voilà.
Une chaire monde francophone, on revient encore au pluriel, Yannick Lyons, avec S à monde et S à francophone. Là, je voudrais t'interroger sur la dimension politique de cette chaire. Qu'est-ce qu'elle va dire de la France d'aujourd'hui?
Je pense que le plus important, c'est que On ne peut plus faire un récit national, que ce soit la France ou d'autres pays d'ailleurs, sans inclure le fait colonial. Impossible. Si maintenant quelqu'un veut parler de la Révolution française, par exemple, et puis ne pas inclure Saint-Domingue, c'est que vous, il y a tout un pan de l'histoire nationale que vous mettez de côté, que vous n'intégrez pas. Si on veut parler de Napoléon, beaucoup de gens parlent de Napoléon, mais n'intègrent pas la défaite de Vertière. Donc, le récit national doit maintenant obligatoirement prendre en compte le fait colonial. Autrement, on passe à côté, c'est un récit biaisé. Bon, alors, il y a d'autres aspects que j'ai montrés exprès. Par exemple, quand je dis que les domaines dans lesquels, la négation a été la plus forte, par exemple, le vaudou, on a toujours montré que c'était un truc de sauvage. Ben, les cérémonies vaudou, les prières en dehors commencent par des prières de la religion catholique.
Il y a un syncrétisme qui est fort.
Absolument. Et toutes les croyances qu'il y avait en France au XVIIIe siècle, on les retrouve. Vous prenez des dictionnaires régionaux en France, vous retrouvez les mêmes croyances qu'on a en Haïti, comme les galipotes. C'est un truc ramené de Charente.
Donc cette chaire francophone casse une dynamique eurocentrique.
Tout à fait. Parce que il faut sortir de cet eurocentrisme, et c'est pour ça que c'est bien que le Collège de France, je les félicite, ils aient mis monde francophone au pluriel. Donc maintenant, les savoirs vont pouvoir circuler. Il n'y aura pas un savoir distillé à partir d'un centre, mais les savoirs vont circuler.
Ouais.
Moi, ce serait même bien que quelqu'un du Sénégal, après avoir entendu la leçon, veuille venir en Haïti faire des études. C'est-à-dire, à la limite, il faudrait que ça ouvre l'horizon des savoirs francophones. Mmh. Que quelqu'un du Bénin ait envie de venir.
Donc, du coup, il y a une mise à égalité des francophonies. C'est fini l'idée que le français pur partirait de la France et qu'il y ait de glissement de français dans de l'autre territoire. Mais là, les francophonies se valent.
Absolument. Mmh. Et c'est l'échange qui va être intéressant. C'est la perspective de l'échange qui doit nous enrichir. Tu vois, parce que moi, d'ailleurs, j'ai commencé par bien montrer que moi, je suis arrivé en France. Il y a des choses qui m'ont manqué en France, comme Michelet, que j'ai, donc, moi, je suis dans l'ouverture.
Ouais.
Je ne suis pas dans une sorte d'agression par rapport à la France. Pas du tout. Moi, Michelet, c'est quelqu'un qui m'accompagne parce que ce premier cours que j'avais eu m'avait absolument ébloui et qui m'a mené, d'ailleurs, à l'urgence d'écrire et d'habiter.
Ouais.
Donc, je ne suis absolument pas dans la fermeture. Au contraire, je suis pour qu'on dialogue.
Mais néanmoins, Yannick Layen, est-ce que ces mondes francophones ne sont pas des mondes noirs pour épidermer la chose?
Le Canada est francophone, tu vois.
Mm-hmm.
Et quand les Haïtiens partent au Canada, ils participent à une réflexion de ces francophones canadiens qui étaient eux aussi en situation de minoration par rapport aux anglophones. Sur la question des langues, sur la question des identités.
Mmh.
Haïti a participé. Moi, récemment encore, Anthony Fepp le disait, ils ont participé à la Révolution tranquille. Parce qu'ils arrivaient d'Haïti, d'Haïti littéraire, ils avaient une avance extraordinaire.
Mmh.
Et ils discutaient avec les poètes québécois, avec les écrivains québécois, de leur propre parcours comme écrivains francophones. Et ils ont alimenté la discussion sur la francophonie au Québec, la langue française au Québec. Voilà.
Sinon, le Collège de France est bon côté, ou pas qu'on est, son côté qu'on est depuis l'ogne 18 ans. Tu l'as dit ça.
Une seule fois.
Ok.
Parce que moi-même, c'est court seulement d'apprendre. Et d'apprendre.
Ouais.
Normal, une seule fois. Oh là là, et je ne sais pas, imaginez, il y a un mec qui t'a fait court pour moi, plus Roland Barthes. Donc, des chitans, on peut m'abgader. Roland Barthes, etc. Parce que il reste vraiment une de mes références en littérature, parce que c'est un esprit brillant. Donc, voilà.
Est-ce que ta production littéraire va rentrer dans ton enseignement? Est-ce qu'il y a de thématiques et de paramètres ou à développer, tu vas utiliser l'un de tes romans?
Ben, tu remarques que je ne me suis même pas cité.
C'est ça, me constater, vrai. Toute une batterie de références, mais j'ai pas entendu Yannick.
Moi, je suis encore des personnes qui pensent que le moi est haïssable. Parce que, bon, c'est moi, je parle. Parler de moi encore dans le texte. Tu vois, peut-être que si j'arriverai à la littérature des femmes, je citerai quelques extraits de romans, mais je pense que ce n'était pas le lieu, ni l'endroit, ni de parler de ce que je fais moi. N'empêche que ce que je fais moi, dans ma production littéraire, tu le sens que c'est la même personne. Forcément. Je ne peux pas être deux personnes. Beaucoup qui ont fait des dons d'ubiquité à Bourgogne. Donc, oui, non.
Maintenant, l'enseignement de la littérature haïtienne fait en créole. N'a bien aimé qu'on ait qui Jean-Yannick Lahens pas le procédé au Collège de France pour le baïner ma jeudi, hein, par exemple.
Eh ben non, je vais quand même avoir un discours sur la littérature créole en français. Maintenant, quand je donnerai, quand je dirai un certain nombre de textes courts, pas qu'à faire très long, je donnerai la traduction tout de suite après. Et en essayant de montrer la littérarité, parce que c'était important de montrer qu'à un moment donné, c'est pas juste faire mettre des mots l'un après l'autre pour faire de la littérature, mais il y a des gens qui ont commencé à travailler à l'écrit littéraire créole.
J'en reviens maintenant au titre de cette leçon inaugurale, Urgence d'écrire, rêve d'habiter, dans le rêve d'habiter. Suite à ton cours, à ton avis, mon cabine suive Kouyo, dans quel monde vont-ils rêver d'habiter suite à ton enseignement?
Ah, je pense avant tout la littérature. Parce que quand tu lis d'un vertige, même si d'un vertige te dit oui, là, on va te partir, etc., tu lis Pétionville en blanc et noir, c'est juste un chef-d'œuvre. Ouais. Quand tu lis Castra, tu es dans la littérature, mais waouh! C'est Haïti, de toute façon. Mais en même temps, tu es dans l'espace universel des mots, de la littérature. Parce que la littérature, c'est le miracle de la littérature, c'est que je peux lire un chinois, je peux lire un malien. Je suis dans une conversation humaine infinie. Voilà.
Au Collège de France, les cours vont se tenir dans quel rythme? Est-ce que Port-au-Prince n'est pas pour Yannick pendant longtemps, là?
Non, ben, bon. Là, tu alimentes les reproches de ma famille. Mais... Non, je vais rester là jusqu'au 16 avril. Je vais rentrer pour 15 jours en Haïti. Je reviens le 2 mai. Je fais donc 5 autres cours à partir du 6 mai. Oui, c'est ça. Mm-hmm. Et puis, il y aura un colloque le 20.
Oui, justement, ce colloque, comment tu le visualises? Comment ça va prendre de l'espace?
Alors, pendant une journée, je vais faire venir donc des gens d'Haïti, parce que je tiens énormément à ça, pour que on sache qu'il y a des gens qui continuent, bien qu'il n'y ait pas d'argent, pas de centre de recherche vraiment avec des moyens, mais il y a des gens qui continuent à travailler en Haïti. On verra contre tout. Ensuite, il y a des gens qui vont venir des États-Unis, il y a des gens qui habitent en France qui vont intervenir, et je voudrais aussi qu'il y ait au moins un petit quota de jeunes et de femmes, tu sais, pour respecter tout ça.
Ouais. Donc, ils vont prendre part au colloque. C'est-à-dire prendre la parole,
exactement,
avoir des petites communications.
Exactement. On ne peut pas faire des communications de moins d'une demi-heure. Parce que quand même, c'est le Collège de France, tu vas pas arriver faire des kilomètres pour juste parler 10 minutes. Donc, voilà. Ces personnes-là vont intervenir sur, par exemple, je vais ajouter la musique haïtienne, parce que c'est important de parler de la musique haïtienne, pour sortir un peu des stéréotypes.
Et là, tu seras dans quel type de musique haïtienne?
Ah non, mais le spécialiste lui-même va montrer la diversité de la musique haïtienne, depuis les rythmes religieux tirés du vaudou, jusqu'à la musique classique.
Alors, comme la chaire, c'est monde francophone, est-ce que tu n'as pas peur d'essuyer des critiques venant du monde, on va dire, africain, canadien, disant « Ah, 95% de son cadre référentiel est haïtien. »
Ah non, non, parce que ils vont prendre un espace pour chaque année. Moi, c'est littérature haïtienne, c'est bien, c'est littérature haïtienne. L'intitulé de mon cours, c'est « Littérature haïtienne, urgence d'écrire, rêve d'habiter. »
Ouais.
Voilà. Et pour le deuxième enseignement, Antoine Compagnon m'a déjà dit qu'il c'était un juriste qui va venir de la Tunisie. Donc, forcément, il va parler de la Tunisie. Parce que c'est un constitutionnaliste tunisien.
Ouais, donc, du coup, là, ça va parler de Tunisie, absolument. Mais comme il est juriste, on sera dans le droit tunisien et tout ce qui va.
Exactement. Ouais. Et c'est l'expérience de la transition tunisienne qui les intéresse sur le plan de juridique. Qu'est-ce que ça représente? Voilà.
Est-ce que dans ton cours, comme nous sommes dans l'écriture, est-ce que tu appelleras ton public à écrire ou bien pas bien espace pour ça? Ça dépend du protocole du Collège de France, de comment ça fait généralement. À toi de nous dire comment du point de vue pédagogique tu vois la chose.
Ah non, du point de vue pédagogique, moi ce que je souhaiterais vraiment, c'est que ça ouvre la dynamique de recherche. Ah non, moi je souhaiterais vraiment que des jeunes chercheurs en France se mettent à réagir sur la leçon inaugurale, sur les cours et partent sur des pistes de recherche. Oui, surtout, ça peut être des pistes de recherche sur Haïti au 19e siècle, ça peut être des pistes de recherche, quand on va arriver à l'époque contemporaine, ça peut être des pistes de recherche sur la musique haïtienne. en musicologie, ça peut être des en, je ne sais pas moi, en innovation culturelle. Parce que je pense qu'Haïti a peut-être des choses à dire là.
Absolument.
Absolument. En innovation culturelle, comment on arrive à tenir sans structure, sans argent, sans, comment on fait? Et comme de toute façon, quand je parle de la majorité du monde. Je ne parle pas de la minorité du monde. Là, nous sommes à Paris, dans un appartement, c'est bien, mais c'est là une bulle de la minorité du monde. La majorité du monde, c'est l'Inde, même s'il y a, c'est l'Afrique, c'est l'Amérique latine qui a des problèmes, c'est, voilà.
Alors, le petit thé là que tu m'as servi, il est très bon, Yannick Lahens. Faut me dire, moi, de temps en temps, là, me font petit goûter là-dedans. Et du coup, ça me donne l'envie de te taquiner un tout petit peu. Mais sur ta carrière personnelle, qui rebondissement cher ça a gagné?
D'abord, tu vois que je me suis présenté en tant que romancière. Une fois la chaire terminée, je vais revenir au roman rapidement.
Dès le mois de
juillet. Ah, dès le mois de juillet, je vais vraiment me retourner. J'ai déjà une idée de roman qui me trotte dans la tête. Donc, je vais retourner. Ceci dit, si parallèlement à ça, il y a quelqu'un qui rebondit sur une recherche et qui voudrait que je l'accompagne, je peux accompagner, tu vois, à ce moment-là. Il y a quelqu'un, d'ailleurs, qui me dit, qui a enregistré des vidéos, et il me dit, il n'y a rien à faire, je dois faire un documentaire sur l'histoire d'Haïti, c'est pas possible. Il me dit, mais c'est pas possible, moi je suis passé par l'école, j'ai fait mon diplôme universitaire, je ne comprends pas d'ignorer tout ça.
Ouais. Il y a comme, donc à dire, on remet à Haïti, mais comme toi maintenant, tu rentres au Collège de France pour tenir une chaire. Est-ce que ça voyait un signal? Est-ce qu'on est en train de couper l'omerta qu'il y avait sur Haïti?
Pas seulement sur Haïti. C'est l'ensemble des mondes que l'on a dit périphériques. Je pense que ça va au-delà d'Haïti. Évidemment, le prétexte, c'est Haïti. Mais ça va au-delà d'Haïti. Et c'est pour ça que j'ai senti une énorme responsabilité sur mes épaules, un gros fardeau, quand je devais prendre la parole. Parce que je savais que c'était au-delà de ma personne, bien sûr, d'Haïti aussi.
Yannick Lahens, tu voulais qu'on termine cet entretien avec quel morceau de musique de ton petit panthéon, quand tu es chez toi, quand tu es dans ta voiture, on t'y chante, on envie d'un des.
Là, tu me prends vraiment
au dépourvu.
Oh oui. Bon mioti limien.
Ouais.
On en a besoin.
Voilà. Bon mioti limien. Entretien spécial avec Yannick Lahens enregistré ici à Paris. Yannick Lahens qui vient d'entrer au Collège de France, qui sera la première à tenir la chaire monde francophone. Merci à James Guillou qui assure le montage. Merci à nos partenaires que sont l'ambassade de France en Haïti, l'ambassade de Suisse en Haïti, l'Institut français d'Haïti, la Focale, l'OIF, Gadon Bonheur. Bon mioti limye, merci Yannick.
Bon mioti limye, pour moi ça a passé. Bon mioti limye, mais bon mioti limye, s'il vous plaît, pour ta ouais. Pour qui ça, c'est ne qui vous fait souffrir? Pour qui ça, c'est ne qui vous fait souffrir? Pour qui ça n'est pas à manger, pour qui ça y a mangé l'amour. J'en y a dit la vie douce, mais c'est pas tout le monde qui jouit privilège ça. Gagne une série de mots, c'est pour une catégorie qui existe. Bonheur, joie, contentement, à gaieté. Yo, pas jamais joué, moment, ça, yo. Yo, là, y'a vivre au jour le jour. En espérant, yo, mieux demain. Si n'a prêché, t'attends. Nous gain pour nous passer toute vie dans la salle d'attente. T'es la donne, papa nous t'es la donne, nous même même nous rentrer là dans l'épirette. c'est tous ces fonds et nous pour l'été, car la manne va dans